Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour Mathieu Davignat.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du grand siècle, historien, ainsi que coordinateur de la recherche et de la formation au château de Versailles. Alors nous explorons à travers la série des éphémérides le siècle de Louis XIV, mais aujourd'hui vous êtes arrêté sur un portrait du grand siècle, un portrait d'un contemporain de Louis XIV. Je devrais plutôt parler d'une contemporaine, puisqu'il s'agit d'une femme, Madame de Montespan, la maîtresse du roi. Alors on sait que dans l'histoire ce fut Agnès Sorel, la toute première maîtresse officielle d'un roi de France. Mais au fond, Mathieu Davignat, qu'est-ce que ça signifie être maîtresse du roi ?
Être maîtresse du roi, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie beaucoup d'avantages, à la fois personnels, à titre personnel, et également pour toute sa proche parentèle. Mais on le sait très bien, le roi de France est marié pour des raisons politiques, par raison d'État. Louis XIV a été marié en 1660. Alors qu'il était tout jeune, où il avait 21-22 ans, à l'infante Marie-Thérèse, sa cousine doublement germaine, et... Donc, c'est vraiment ce mariage était pour souder le rapprochement des deux couronnes après plus de 35 ans de guerre. Donc, le roi, on tolère qu'il ait des maîtresses. Ça fait partie du paysage, on va dire. Donc, on tolère. Alors, évidemment, Anne d'Autriche, la mère du roi, le tolère assez mal car elle est très pieuse. Mais être maîtresse du roi, c'est avoir une place prépondérante à la cour. Pour Madame de Montespan, ça sera avoir un appartement beaucoup plus grand que celui de la reine, de plein pied avec celui du roi. Bon, celui de la reine est évidemment de plein pied avec celui du roi, mais l'appartement de Madame de Montespan sera plus grand que celui de la reine. C'est avoir tous les courtisans à ses pieds, c'est une foule de personnes qui vient vous solliciter en permanence, et c'est obtenir de nombreuses richesses, de nombreux avantages pour son père, qui était quand même déjà... de grandes, grandes familles.
Alors justement, avant peut-être de venir à leur première rencontre, quelles sont les origines de Madame de Montespan ?
Alors, Madame de Montespan, ce n'est pas n'importe qui, c'est Françoise de Rochechouart de Mortemar, donc l'une des plus vieilles familles de France. Elle était très fière de sa naissance. Son père était donc le duc de Mortemar. Très très grande famille, on parlait énormément de l'esprit Mortemar qui était célèbre à l'époque, l'ensemble de la famille était réputée pour avoir un très très bel esprit, et on a des scènes où Madame de Montespan reproche à Louis XIV d'une façon complètement altière d'avoir une noblesse inférieure à la sienne. Elle prétend remonter au vicomte de Limoges, c'est-à-dire au 9e siècle, alors que les Capétiens ne remontent qu'au 10e siècle. Donc, n'hésitez pas à faire valoir sa haute noblesse. Et c'est pourquoi, notamment, lorsque nous avons eu l'occasion d'en parler avec Madame de Maintenon, lors du mariage de Madame de Maintenon, la petite noblesse de Madame de Maintenon face à celle qu'on appelait la belle Athénaïs, de son nom de précieuse, parce que dans les années 1660, elle fréquentait énormément les salons parisiens, et elle avait pris le nom d'Athénaïs. Évidemment, après une Madame de Montespan, une Françoise d'Aubigné fait piètre figure.
Alors comment se passe leur première rencontre ?
Tout d'abord, ça se passe dès le début des années 1660. Madame de Montespan arrive à la cour en 1661-62 comme fille d'honneur, je ne sais plus si c'est de la reine ou de madame, parce qu'à un moment donné, les filles vont être supprimées parce qu'on parlait de ces filles d'honneur comme un vivier pour les maîtresses royales, donc elles vont être rapidement supprimées. Donc elle se côtoie parce qu'elle a naturellement sa place à la cour de par sa naissance. Donc il se voit. Madame de Montespan est très pieuse. Elle se marie en 1663 avec Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, donc marquis de Montespan, qui est aussi une vieille famille, alors pas aussi ancienne que celle des Rochechouart, mais qui est une très très bonne famille. Elle se marie avec Monsieur de Montespan. Elle fréquente la cour. Le roi ne l'intéresse pas spécialement, le roi ne s'intéresse pas spécialement à elle. Elle danse, parce que c'est une période dans laquelle on danse encore énormément, où le roi pratique encore dans les ballets de Binsrad, où elle apparaît donc comme en bergère, etc.
C'est une jolie femme ?
C'est une très jolie femme, alors ce qui est une blonde avec des yeux bleus et les lèvres très très rouges. On a des portraits donc des années, voilà, une petite vingtaine d'années où effectivement elle est très très belle, du moins où vraiment on reconnaît sa beauté. Alors face à une mademoiselle de La Vallière qui est la maîtresse en titre depuis 1661, elle a vraiment beaucoup plus de charisme face à une mademoiselle de La Vallière qui est assez effacée, qui est en totale admiration devant le roi, alors que Madame de Montespan, elle, sait s'affirmer, sait parler, sait tenir salon. Et en 1666, il y a des rapprochements, mais Madame de Montespan se défend. Elle se défend elle ne veut pas céder au roi qui, pour le moins, ne semble pas s'y intéresser. Mais elle voit que quand même, le roi commence à s'intéresser à elle finalement petit à petit en 1667. Et elle demande à son mari de quitter la cour. Pour pas céder, justement. Monsieur de Montespan ne veut pas quitter la cour, et ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire en 1667, à Avène, dans les Flandres, lors de la campagne des Flandres, on a Mademoiselle de Montpensier, la grande mademoiselle, la cousine du roi, qui dit c'est à Avène que le roi a cédé, etc. Donc on a à peu près la date.
En fait, c'est Madame de Montespan qui a cédé.
Oui, qui a cédé. Alors, effectivement, elle a cédé à Louis XIV.
Quel c'était leur rapport ? Vous présentiez une personne très pieuse. Est-ce que c'était une personne avec beaucoup de charisme ? Est-ce que c'était une intellectuelle ?
Alors, elle n'était pas spécialement intellectuelle, du moins pas telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a de l'esprit. Voilà, c'est vraiment c'est ce qui caractérise vraiment les Mortemar. Alors, elle est instruite, mais pas plus que la moyenne. Et quels sont les rapports avec Louis XIV ? Alors, après, elle va devenir, entre guillemets, tyrannique vis-à-vis de Louis XIV. C'est-à-dire qu'elle obtiendra tout ce qu'elle veut du roi. Il lui aura quand même fait 8 enfants, dont 6 survivront plus ou moins jusqu'à l'âge... Non, pas, soit pas mort en bas âge. Elle n'hésite pas à lui tenir tête. C'est une femme de tête et donc très, très impétueuse, très, très, très explosive, entre guillemets. Et donc, elle va placer toutes les gens qu'elle aura à placer, notamment son frère qui deviendra maréchal des galères, et placer toute sa parentèle. Elle sera très proche du clan Colbert. Elle peut apparaître très cupide, c'est-à-dire qu'elle a une pension à la fin pour ses enfants de 150 000 livres pour les élever. Elle se fait construire le superbe château de Clagny, tout proche de Versailles. Donc, il y a un premier architecte qui ne lui plaît pas du tout. Donc, on détruit complètement le château, puis c'est Mansart qui le reprend. Donc, c'est une superbe bâtisse, malheureusement, qui a été détruite sous Louis XV. Et tout est comme ça. Elle vit sur un train énorme, avec carrosse à 6 chevaux, voire 6 chevaux, ce qui est énorme. Normalement, c'est le privilège du roi et de la reine. Bon, alors, Mademoiselle de Fontanges, qui sera la dernière maîtresse officielle du roi, aura le droit à un carrosse à 8 chevaux. Alors là, parce que le roi était en plein de démons de midi, on peut dire, avec la crise de la quarantaine, où il est avec une petite jeune fille de 17 ans qui est sotte comme un panier, comme le dit Choisy, qui est belle comme un ange, mais sotte comme un panier, et qui aura le droit à un carrosse à 8 chevaux, là. Donc, Madame de Montespan règnera vraiment sultane.
Elle a un rôle politique ou...
Non,
très peu.
Très peu. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui gravitent autour du roi peuvent privilégier des promotions, obtenir des postes pour des gens, mais ça ne va pas dans le sens politique.
Alors, le nom de Madame de Montespan est lié à l'affaire des poisons. Quel rôle joue-t-elle dans cette affaire ?
Alors ça, c'est très très trouble. En 1679 explose donc l'affaire des poisons, où toute la grande société est impliquée. Alors, on avait déjà eu vent de poisons avec Madame de Brinvilliers en 1676. Et en 1679, on parle du maréchal de Luxembourg, on parle de Madame Duroux, on parle du duc de Vendôme, on parle de le marquis de Feuquières. Et puis, on parle aussi de Madame de Montespan, qui aurait demandé la mort de Mademoiselle de Fontanges. Il faut savoir que Mademoiselle de Fontanges meurt en 1681 en couche. Elle a 20 ans. Et c'est une mort qu'on a jugée suspecte à l'époque. Et on n'hésite pas à accuser Madame de Montespan. Et donc tout ça est vraiment très très trouble. Et on pense plutôt en fait que les personnes accusées ont cité tous les grands noms qu'ils connaissaient pour se dédouaner, pour dire comme ça on ne pourra pas nous toucher si on donne moins les gens les plus en vue, et à l'époque c'est Madame de Montespan qui est effectivement la plus en vue, on pense se dédouaner. Alors Louis XIV a créé une chambre ardente pour régler tout ça, et il apprend apparaît le nom de Madame de Montespan. Donc il est très ennuyé, ça faisait déjà quelques temps qu'il s'était détaché de Madame de Montespan, même si elle reste la maîtresse officielle. En 1680, c'est plus du tout la belle Madame qu'on avait l'habitude de voir. Primi Visconti parle d'elle lorsqu'elle descend du carrosse en décrivant ses deux gros poteaux à la place de ses jambes. Donc elle est loin d'avoir la fraîcheur qu'elle avait dans les années 1667-1675. Elle est impliquée et Louis XIV fait tout pour étouffer l'affaire. Il ne veut surtout pas que les gens qui le touchent de près soient impliqués. Ça n'empêche qu'il sera quand même très marqué par cette affaire. Alors, il ferme définitivement la chambre ardente en 1681. Il étouffe complètement. Et à la mort de Madame de Montespan en 1707, il brûlera tous les papiers concernant Madame de Montespan dans cette affaire. On n'a que les archives de la Bastille qui subsistent à l'arsenal. Et effectivement, mais ce qu'on peut reprocher à Madame de Montespan, c'est qu'effectivement, apparemment, elle aurait participé à des messes noires dans les années 1667-68, dans lesquelles elle demandait simplement l'amour du roi et l'éloignement de Mademoiselle de la Vallière. Et ce qu'on lui reproche dans les années 1680, c'est d'avoir demandé la mort de Madame de Fontanges et des choses beaucoup plus sombres. Voilà.
Le roi, en fait, l'abandonne peu à peu.
Oui,
il étouffe l'affaire, mais il s'éloigne
d'elle. De toute façon, ça faisait longtemps qu'il s'en détachait, parce qu'il se rapprochait de Madame de Maintenon. En 1684, elle déménage de son très très grand appartement du premier étage pour le rez-de-chaussée. Elle rejoint l'appartement des bains, qu'on réaménage pour elle au rez-de-chaussée. Elle fait signe, mais elle s'accroche en fait par ses enfants, parce que le dernier de ses enfants est né en 1678, le comte de Toulouse. Donc elle est quand même la mère encore d'enfants royaux. Donc c'est comme ça qu'elle s'accroche. Et en 1691, comme elle est impulsive, comme elle a toujours été impulsive, elle dit « j'en ai marre, je pars ». Et le roi la prend au mot et fait déménager immédiatement, annonce officiellement qu'il donne son appartement au comte de Toulouse, c'est-à-dire leur dernier fils. Et elle se retire à Chaillot. Et elle va être énormément active auprès de Chaillot, du moins du couvent de Chaillot, faire énormément de dons pour les pauvres. Et elle disparaît vraiment de la cour en 1691. Elle meurt en 1707 dans l'oubli le plus complet. C'est-à-dire que le roi l'apprendra complètement par hasard. Il ne marquera aucun signe d'affection. Et elle s'était rapprochée en dernier temps de son mari qui est mort en 1701. Et donc elle meurt complètement, non pas pauvre, parce qu'elle était toujours très très riche, mais complètement oubliée du roi.
Eh bien, Mathieu Davignat, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Et nous nous retrouverons très bientôt pour un autre portrait du grand siècle. À très bientôt.